Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Eh bien, une émission à graver dans le marbre, il faut l'espérer, avec deux invités, deux co-auteurs que nous allons présenter dans un tout petit instant. Caroline Fourgeau-Laville, que nous avons déjà rencontrée radiophoniquement, et François Lefebvre, donc le co-auteur que j'annonçais. Alors déjà, quand même, je leur dis bonjour. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, je suis à Nîmes, canicule absolue, et vous, à Paris, j'imagine. Et nous allons donc gravir les siècles et jusqu'à revenir à aujourd'hui, puisque nous nous intéressons à un livre qui est paru dans la collection Les Petits Grecs ou Les Petits Latins. Je vais y revenir dans un instant sur cette collection que j'aime beaucoup, d'abord parce qu'elle est très intéressante et puis parce qu'elle est très variée, avec un nombre sans cesse croissant de petits ouvrages ou de gros ouvrages vraiment intéressants pour mettre le grec, le latin, la pensée de l'Antiquité à la portée de tous. Alors vous, le livre que vous avez édité, paru, préparé, s'appelle « Gravé pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures ». Et dans un petit instant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, donc, un petit focus sur cette collection des belles lettres, hein, une collection vraiment abondante, puisque dans les Petits Latins, c'était le titre initial, il y a, si j'ai bonne mémoire, 22 titres déjà parus. Dans les Petits Grecs qui ont démarré peu après, il y en a 5. Et dans les manuels d'apprentissage mêlant soit le latin, enfin le latin et le grec, il y en a 5 plus 1, dont je voulais dire un tout petit mot parce que nous venons de passer le forum du livre Peplum à Nîmes qui avait pour thème Pompéi, Quid Novus à Pompéi. Et nous avions évoqué ce petit latin en vacances sous le soleil de Pompéi. Et je ne saurais trop le recommander à ce moment où on va tous faire nos bagages pour aller se détendre. Eh bien, sans jeu pour progresser sous le soleil de Pompéi, c'est la bonne idée. C'est donc La vie des classiques, les petits latins. Et l'auteur est Julie, alors là, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Wojciechowski. Oh, je crois que je me suis un petit peu emmêlée. Mais donc, je recommande...
Pardon ? Je précise quand même, c'est quelqu'un qui est très connu, Julie,
oui,
et qui signe le nom de Juveau sur les réseaux sociaux et qui est en fait attaché à une très, très chouette association qui s'appelle Arrête ton char.
Exactement.
Voilà, et... donc elle est très connue en général des amateurs d'antiquité et des antiquisants en général.
Et moi, j'ai l'espoir que des gens qui ne s'intéressent pas d'habitude à l'antiquité vont se régaler avec ces jeux qui sont vraiment à la portée de tous et qui vont vous permettre d'avoir une appétence pour Pompéi et pour l'antiquité en général. Alors, je reviens à Caroline et à François. Alors, Caroline, je la présente rapidement, spécialiste de la Grèce antique, fondatrice de l'association Erika, on en a déjà parlé, auteur aux belles lettres, directrice de collection aux éditions d'Observatoire. Et si j'ai bonne mémoire aussi, vous êtes une plume du Figaro Histoire.
Oui, exactement. Donc, oui, et d'ailleurs, je viens de signer un article, d'ailleurs comme François, dans le dernier numéro du Figaro Histoire, qui est consacré aux guerres médiques.
D'accord, donc voilà encore une bonne idée pour à la fois se cultiver et se distraire. Donc Caroline, nous l'avions reçue parce qu'elle avait écrit Eureka, le manuel de grec ancien express notamment. Et donc nous avions vu à quel point sa passion pour la Grèce et pour le partage de cette passion aboutissait à des manuels et à des livres complètement innovants. François Lefebvre, je fais sa connaissance radiophonique aujourd'hui, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, ancien membre de l'École française d'Athènes. C'est un professeur d'histoire grecque à la Sorbonne, donc je suppose Paris 4.
C'est ça, Sorbonne Université aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est resté Sorbonne Paris 4 parce que j'y ai traîné mes guêtres assez longtemps. Donc, ce livre dont nous allons parler aujourd'hui, beau livre, copieux, précis, gravé pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures. Je commencerai par dire que la couverture est aussi très belle. Alors, les illustrations, on avait déjà parlé de l'illustrateur de cette collection La vie des classiques. Et là, on va donner peut-être un petit coup de lumière et de chapeau à Jules et à son dessin sur la couverture.
Oui, c'est vrai. On est très heureux d'avoir été croqué par Jules, puisqu'on sait très bien qu'il est très attaché au grec culturellement et parce qu'il a signé ce beau 50 nuances de grec
Voilà.
que tous les passionnés possèdent en général et qui se sont amusés à revisiter la civilisation et la mythologie à travers ces très beaux, cette fresque de Jules. Et donc voilà, François et moi sommes croqués sur la couverture par Jules.
Et donc, je trouve que c'est vraiment très bien fait parce que c'est à la fois, ça donne une belle idée de vos personnes et en même temps, on est bien dans le thème. Alors, Jules, justement, il fait partie de ces gens qu'on adore, qui ont un solide bagage, une agrégation d'histoire, par exemple, et une passion pour le dessin de presse, et puis qui se sont commis à des tas de choses qui croisent tous les genres et avec un bonheur inouï. Alors, en ce qui concerne tous les deux, et peut-être aussi Jules, tous les trois, il semblerait que le point commun, ce soit la Grèce et le grec, si on en croit ce livre dont nous parlons, mais si on en croit aussi un livre de François Lefebvre qui a fait parler de lui, Histoire antique, Histoire ancienne, un livre dans lequel vous défendez, vous démontrez que cette histoire antique, elle est actuelle.
Oui, ça correspond plus largement chez moi à une manière d'enseigner depuis 30 ans. J'ai toujours été frappé par l'extraordinaire promiscuité, proximité entre ces anciens qui ne sont pas si anciens et nous-mêmes. Et je pratique volontiers l'anachronisme pédagogique, comme on dit, pour associer plus étroitement les étudiants, susciter leur attention. Et pour tout dire, théoriquement, enfin dans mon esprit, c'est quelque chose qui est réservé à l'oral. Et puis finalement, ça a eu beaucoup de succès. Et ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont pris l'initiative de me demander d'écrire tout ça, parce que ce serait dommage que ça disparaissent, disait-il. Et donc voilà, et on retrouve un peu ce même esprit d'engraver pour
Oui.
l'éternité. À chaque fois que c'est possible, il ne faut pas le faire de manière infondée, de manière échevelée, mais à chaque fois que les rapprochements sont suffisamment corrects, eh bien il ne faut pas hésiter. Ça me donne l'occasion aussi de faire de petites tribunes dans la presse de grande diffusion, Marianne ou autre, quand ça se présente, et ça a toujours un grand succès.
Voilà, toutes les occasions, en effet, de montrer que, de même que cette exposition merveilleuse qui avait eu lieu au musée d'histoire de Marseille, on n'a rien inventé et que, effectivement, la proximité entre cette époque que l'on dit vieille et poussiéreuse et la nôtre, elle est grande en réalité.
C'est ça, exactement. Et dans des détails, enfin, ce qui est intéressant pour moi, hein, qui suis tout de même véritablement sur le front de la recherche, etc., c'est d'aller au-delà de tout ce que l'on peut rabâcher sur les mythes, etc., enfin, qui est quand même assez bien connu. Mais l'épigraphie, notamment, et pas que elle, permettent parfois de faire des rapprochements terme à terme, enfin, dans des détails de comportement qui sont confondants, enfin, véritablement étonnants. Et c'est ça qui est amusant. Et ça surprend, enfin moi, chaque année, 3 ou 4 fois par an, j'ai comme ça des télescopages violents entre l'Antiquité et ce que nous vivons. Hein.
Bien sûr, et ce travail sur l'épigraphie, comme vous le disiez, il est fondamental parce que il nous met directement au contact du quotidien dans sa variété. Justement, l'épigraphie, donc, on va quand même rappeler pour les auditeurs, même s'ils le savent, que c'est la science qui étudie l'écriture sur mur, sur pierre, elle est d'une variété infinie. Alors, je sais que, par exemple, Caroline, on parlera de la structure de votre livre tout à l'heure. Caroline, dans la première partie de l'ouvrage, parle beaucoup de ça, hein, de cette variété du support épigraphique.
Oui, en effet. Alors, c'est vrai que lorsque on a voulu faire ce livre ensemble avec François, il m'a paru essentiel d'abord de faire de ce livre une sorte d'hommage et de livre d'amour dédié à la langue grecque et à l'écriture, puisque ce sont deux choses différentes et c'est souvent mal perçu du public. Hein, c'est-à-dire la langue n'est pas l'écriture. Et l'écriture de la Grèce antique, c'est une épopée. C'est pratiquement c'est plein d'aventures, de rebondissements, on sait rarement qu'en fait la langue grecque a eu plusieurs formes
Oui.
d'expression. Et donc j'ai essayé de relater dans la première partie l'histoire de cette écriture, donc l'histoire des formes que la langue grecque a prises pour s'exprimer. mais également des supports. Donc les formes et les supports sont deux matérialités, si vous voulez, de cet esprit grec que j'ai essayé de capter, et puis dont j'ai essayé de retrouver les signes depuis la très très haute antiquité, puisque on remonte en fait aux Mycéniens. Jusqu'à. Alors, moi, je m'arrête toujours à Alexandre. J'ai une propension naturelle à ne pas franchir la frontière. C'est mon côté amoureux de Démosthène, mais François va bien au-delà. Et donc, on arrive à faire ensemble une sorte de panorama, je crois, tout à fait complet de ce qu'est l'écriture pour les Grecs. Donc,
Alors,
quand on a ce petit livre, on a à la fois un livre d'histoire de l'écriture. Et en même temps, un manuel d'initiation à l'épigraphie.
je reviens à ma question pour éclairer un petit peu nos auditeurs qui ne sont pas forcément tous des spécialistes. Est-ce qu'on peut donner un échantillonnage de cette variété des supports épigraphiques? Où c'est qu'on va
Oui,
trouver
bien
des
sûr.
inscriptions?
Alors évidemment la pierre, le marbre, on a tout ce qui est support dur, parce que l'épigraphie concerne essentiellement l'écriture sur les supports durs. À partir du moment où on parle de support, j'allais dire doux, c'est-à-dire support mou en tout cas, comme le papyrus, comme les tissus en général, etc., on parle de paléographie. Enfin, c'est associé à la paléographie d'une manière plus générale. Et en fait, je me suis justement. Ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y a là aussi une différence de sens de ce qui est exprimé? Et je crois, enfin, avoir à travers le petit essai qui apparaît là en forme d'avant-propos au choix épigraphique de François, avoir essayé j'espère avoir débusqué le sens de l'écriture sur support dur, puisque c'est ce que signifie épigraphie. Et en effet, les Grecs n'expriment pas la même chose sur une stèle que sur un papyrus.
Voilà, donc des stèles, des céramiques, on va avoir du métal, voilà. Donc en fait, on ne mesure pas l'immense variété. Alors, à Nîmes, si, puisque on a avec le Musée de la Romanité un des endroits où la collection épigraphique est la plus abondante, mais c'est vrai qu'on ne mesure pas à quel point l'écriture sur du dur, comme vous le dites, se retrouve un petit peu partout. Et j'aime aussi que vous ayez souligner un paradoxe que ce peuple du Logos, hein, ce peuple grec, est aussi ce peuple de l'épigraphie.
Oui, c'est le paradoxe le plus étrange et le plus saisissant qui soit, puisqu'on sait combien les Grecs se défiaient de l'écriture, et donc on a des passages de Platon qui sont explicites, montrant combien l'écriture est considérée un peu comme nous le faisons nous avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire avec la même défiance en se disant, mais au fond, cette écriture, elle met à mal notre pensée, notre capacité de raisonnement, notre mémoire, qui est quand même la grande chose des Grecs, c'est la notion de mémoire est fondamentale. Et donc évidemment, ils se méfiaient d'écriture, mais sans méfiant, ils savaient en faire le meilleur usage qui soit. Et je crois que c'est pour ça que l'écriture sur pierre est venue simultanément, enfin dans le même temps que la naissance de la démocratie en quelque sorte, parce que l'écriture sur les stèles, c'est l'écriture des lois et disons que c'est l'écriture de la raison, c'est la raison qui porte sa voix devant le public et c'est une façon d'attester, de devenir le témoin de la naissance de la raison. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le cas des stèles, il s'agit au fond de la voix du politique, de la voix des lois. Et certaines lois, enfin, les lois sont sacrées. Donc il y a toujours cette ambivalence. J'ai fait référence par exemple à une stèle qui se trouvait sur le chantier de l'Acropole et qui nommait, enfin, qui indiquait qu'il ne fallait absolument pas qu'on fasse n'importe quoi sur l'Acropole parce que c'était un territoire sacré. Et pourtant, c'était une loi qui l'indiquait. Donc le sacré était matière de loi et les lois étaient sacrées. Donc l'écriture était acceptée dans ce cadre-là, disons.
Et en même temps, là aussi, le grand écart entre ces lois, donc l'officiel, on va dire, et puis toutes ces stèles funéraires, tous ces messages, au contraire, particuliers, mais qui sont aussi œuvres de mémoire.
Oui, c'est la mémoire intime de, je dirais, des vies minuscules, finalement. Ce qui est très, très émouvant aussi, c'est de se dire que cette histoire, puisque je le relate aussi dans le livre, l'histoire de l'écriture des Grecs, c'est aussi l'adoption d'un outil extraordinaire qui s'appelle l'alphabet
Oui.
et qui est arrivé, disons, autour enfin, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il se trouve qu'à partir de là, l'écriture s'est démocratisée. Et se démocratisant, elle est devenue aussi la possibilité, l'occasion pour tout un peuple de se faire citoyen. Parce qu'on ne pouvait pas être ou exercer, disons, sa fonction de citoyen sans savoir au minimum un peu lire. Alors, il y a des anecdotes savoureuses. François pourrait. On y a tous les deux pensé. C'est le fameux Tesson
Oui.
d'ostracisme. Voilà, donc il y a toujours, si vous voulez, l'écriture, c'est quand même aussi un outil de pouvoir. C'était le cas dès l'époque mycénienne et ce sera encore le cas avec la naissance de la démocratie.
Alors nous allons marquer une petite pause musicale, puis ensuite on se retrouve et on exploitera une expression que j'ai beaucoup aimée à la fois dans le travail de Caroline dans la première partie et aussi on le retrouve dans le travail de François, épigraphie post-restante. Alors on se retrouve dans une petite minute musicale. À tout de suite. Alors, Antiquissimo, Radio Alliance Plus, deuxième partie de l'émission consacrée à ce beau livre qui a un très beau titre aussi, Gravé pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures, un livre coécrit par Caroline Fourgeau-Laville et François Lefebvre. Alors, on a terminé la première partie avec cette évocation de l'expression post-restante que vous utilisez tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous mettez dessus ou dessous?
Alors, de mon point de vue, on va partir du particulier et puis peut-être remonter au général avec Caroline. De mon point de vue, c'est tout simplement pour illustrer un texte assez fascinant, assez pathétique aussi, il faut bien le dire, c'est-à-dire une lettre gravée sur une lamelle de plomb qui a été envoyée par un Grec en très mauvaise posture parce qu'il était visiblement séquestré quelque part en Crimée. Et en fait, il demande de l'aide. Et on ne sait même pas, enfin, si la lettre a pu partir, on ne sait pas si elle est arrivée à ses destinataires. Elle nous est arrivée, en tout cas à nous, et c'est pour cela que j'ai intitulé, enfin, j'ai mis comme sous-titre poste restante, point d'interrogation. On n'aura jamais la réponse de
Bien
cette question
sûr,
à cette réponse.
comme
Caroline.
une bouteille à la mer, et
C'est
nous sommes
ça.
là au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et
Exactement.
Caroline, vous alors?
Oui, alors moi, c'est tout à fait dans le même esprit, hein, de toute façon, puisque j'ai eu l'idée d'intituler ce petit avant-propos post-restante, puisque je considère que les lettres grecques sont un petit peu partout chez nous et qu'au fond, eh bien, nous-mêmes, nous sommes les continuateurs. Et quand on écrit, quand on lit du grec aujourd'hui, on continue de faire parler ces individus que nous n'avons pas connus, qui seraient restés anonymes, qui le sont encore souvent. Mais je trouve qu'il n'y a plus. Enfin, rien de plus émouvant que d'emmener un enfant dans un musée, de s'arrêter devant une vitrine comportant un vase et de lire la signature du céramiste. Voilà, je trouve ça extraordinairement beau que de donner la parole à un être qui a vécu il y a 2500 ans et qui nous parle encore aujourd'hui. C'est ça la poste restante, c'est en fait le fait que nous puissions nous serrer la main dans un musée, sur un site archéologique. C'est que l'Antiquité et aujourd'hui puissent encore se tenir la main.
Et vous avez fort bien montré cela. Alors, dans les deux parties du livre, il y a une première partie, on dirait qu'il y a deux livres en un, hein. Une cinquantaine de pages au départ, écrites par Caroline, et qui présentent en effet l'histoire de l'écriture et de l'épigraphie. Puis ensuite, un itinéraire épigraphique avec beaucoup plus de pages, parce qu'en fait, c'est toute une série d'exemples. Tout à l'heure, quand nous avons évoqué Poste restante, nous étions dans la, je ne sais pas si on peut dire, sixième chapitre ou sixième partie de cette deuxième section consacrée à des exemples.
Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est donner une petite anthologie, en quelque sorte, alors qui n'était pas très facile à faire parce que le livre ne devait pas prendre des proportions trop considérables. Et il fallait à la fois rendre compte des différents types d'inscriptions, des différents supports, des différents thèmes, des différentes époques. Et également en essayant de trouver des niveaux de grec distincts, puisque les textes grecs sont donnés, puisqu'il y a des notes critiques avant, évidemment, une traduction et un bref commentaire, de manière à ce que tout le monde puisse y trouver quelque chose, une sorte de couteau suisse, en fait. C'est aussi une méthode, enfin, pour apprendre. Enfin, il y a des textes qui sont tout à fait abordables avec un petit niveau de grec, hein, il y a à peu
Alors,
près tout.
ça m'amène à une question, justement, c'est que il est dit que ce livre s'adresse aux débutants, mais moi je trouve que ça s'adresse à tout le monde, en fait, à tout niveau.
Oui, je peux même vous confesser qu'un bon nombre de mes collègues universitaires s'en sont déjà emparés pour faire leurs cours.
Voilà, absolument. Je pense que vraiment, tout le monde y trouvera son compte parce que, aussi bien dans la première partie précise, même si elle est plus courte que l'autre et qui donne vraiment une idée de l'histoire de l'écriture, que dans la deuxième, avec cette série d'exemples qui sont autant de démonstrations, eh bien, vraiment, c'est facile à lire et en même temps, on se sent intelligent à lire ces choses-là. Donc, dans la deuxième partie, il y a beaucoup de chapitres, puisqu'on va jusqu'au numéro 27, on termine avec l'empereur Adrien à Delphes. Et bien évidemment, mon propos n'est pas d'égrener ces 27 parties, mais peut-être de regarder un petit échantillonnage. Le premier, c'est une tournée homérique avec la coupe de Nestor. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot de ce choix? Parce que tout à l'heure, vous disiez que ça n'a pas été facile de choisir. J'imagine, hein, que pour vous, le gros travail de départ, ça a été cette sélection. Alors, vous avez commencé, bien évidemment, avec la tournée homérique.
Oui, parce que c'est un document tout à fait fascinant, hein. C'est un vase, un petit gobelet qui a été produit en Asie mineure, que l'on a retrouvé dans une tombe sur l'île de d'Ischia, au large en face de Naples, et qui vraisemblablement porte enfin, fait une allusion à un passage de l'Iliade, et on est vers 720 avant notre ère. Donc ça montre la rapidité avec laquelle a circulé l'écriture, ont circulé les poèmes homériques, ont circulé les objets, ont circulé les gens. Bref, c'est un réseau social à soi tout seul,
Oui,
l'épigraphie.
et ce qui est fascinant, c'est justement ça, de découvrir que ces gens avaient des connivences culturelles énormes et que cette notion de texte homérique, elle était répandue partout, quoi, et d'écriture partout.
Oui. Le texte suivant le rappelle aussi d'ailleurs.
Alors, j'en profite puisque dans ce premier chapitre, vous parlez d'une gravure sinistroverse pour dire que dans la première partie écrite par Caroline, il y a aussi beaucoup de notions de vocabulaire très importantes. Donc, je ne peux pas détailler tout, nous n'avons pas le temps, mais on est rapidement au fait des termes qu'il faut connaître pour aborder l'écriture. Alors, pour continuer avec le travail de François, donc on a évoqué le 6, la poste restante, donc je n'y reviens pas. On peut évoquer aussi le 18 avec un petit exercice de méthode à Délos. Alors, pourquoi c'est un petit exercice de méthode?
Oh ben, j'ai voulu montrer que l'épigraphie, avec un petit peu de pratique, un petit peu de méthode, un petit peu de grec, tout le monde peut s'y livrer. C'est-à-dire que c'est un texte abîmé, mutilé, il en manque une moitié en réalité, mais c'est une dédicace faite par un souverain hellénistique à Délos. Ce sont des formulaires assez figés. Et avec ce qu'il reste de la partie mutilée, eh bien, on s'aperçoit que en étant un peu inventif, en étant un peu imaginatif, en connaissant un peu les autres textes, eh bien, petit à petit, soi-même, on arrive à compléter les choses. Il faut bien savoir que beaucoup de ces textes sont arrivés abîmés, hein, et que le péché mignon de l'épigraphiste, eh bien, c'est d'arriver à deviner quelles sont les parties, qu'est-ce qu'il y avait dans les parties manquantes, de la même manière qu'un architecte reconstitue un temple à partir de trois morceaux de colonne, ou un céramologue un vase entier à partir de quelques tessons. C'est exactement la même chose, c'est une grammaire à chaque fois.
Alors, encore deux exemples, parce que je vois le temps qui file à toute allure. On est au chapitre 22, Vive la liberté, affranchissement d'une esclave. Et là, on apprend les conditions, par lesquelles les esclaves achetaient leur liberté.
Oui, ils avaient la possibilité, suivant leur emploi, de se constituer un petit pécule, c'est-à-dire que les maîtres les associaient volontiers aux bénéfices. Et à partir du 2e siècle avant notre ère, ils peuvent gagner leur liberté. Alors ça se passe de la manière suivante. En général, le plus souvent, on va dans un sanctuaire et en fait, c'est le dieu qui,
Oui.
fictivement, achète l'esclave, ce qui revient en fait à le libérer.
Oui, je trouve que c'est vraiment émouvant ça aussi, cette manière de procéder. Dernier petit exemple parmi tant d'autres, 25, disparu en mer, la stèle de Nomos, donc un marin disparu, nous sommes au 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, et là, comme l'émission se termine, je vous demande d'être ultra rapide.
Eh bien ça, c'est tout l'aspect émouvant des disparus en mer. J'ai pensé à mettre ce texte en visitant une chapelle sur le littoral breton, où il y avait plein d'ex-voto et de
Oui.
monuments d'inscriptions de ce genre. Voilà, donc un nouveau pont entre l'Antiquité et nous.
Ben, merci beaucoup François, merci beaucoup Caroline, et je ne doute pas que tout le monde aura envie de lire, gravé pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.